Cinéma, Jacques Viguier, bonjour. Aujourd'hui, Woody Allen. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Woody Allen, il a eu plusieurs périodes dans son cinéma, dans ses films. Il a commencé par des films totalement comiques, dans le début des années 70, et après il est passé à des films plus sérieux, parfois plus tragiques, parfois tragicomiques. Donc la période initiale est vraiment celle de celui qui fait des gags. Dans les années 60, il fait le scénario de certains films, il trouve des répliques pour un certain nombre d'acteurs, et donc il ne va devenir réalisateur qu'au début des années 70. Et avec des films comiques seulement, donc c'est « Prends l'oseille et tire-toi » en 1969, ce sera « Bananas » en 1971, donc des films qui sont totalement comiques. « Bananas » par exemple, c'est un personnage où il va décider de partir du côté des révolutionnaires. On voit l'assassinat d'un président en direct au départ, et puis il va être amoureux d'une militante révolutionnaire, et il va participer à la révolution, avec une dimension côté Cuba, barbu, etc. Donc le personnage est déjà critique de la société, et il tient un rôle qui correspond au personnage qu'il va développer, puisque Woody Allen va créer un personnage, cette espèce d'intellectuel new-yorkais, perdu un peu dans la société, et rencontrant de nombreux problèmes, notamment des problèmes de couple. Donc cette thématique revient dans nombre de ses films, et cet approfondissement de la dimension philosophique, on pourrait dire psychanalytique, apparaît à partir de la seconde moitié des années 70. Donc là, le tournant dans ses films, c'est Annie Hall et Manhattan. Annie Hall, c'est 1977, Manhattan 1979. Annie Hall, on suit son couple, avec déjà son image traditionnelle, et une actrice, Diane Keaton, qui est proche de lui à ce moment-là. Et le titre Annie Hall renvoie au nom réel de Diane Keaton. Et il y a donc des scènes comiques sur ce couple qui parfois va s'opposer. Et cette situation des difficultés de couple, là encore, est posée ici, mais sera reprise de nombreuses fois. Quant à Manhattan, le personnage de Woody Allen est pris entre plusieurs femmes. Il hésite, il discute, il tergiverse. Et toujours sur une musique de jazz qui est une constante chez Woody Allen. Alors, la popularité, la célébrité de Woody Allen va éclater au cours des années 70. Et en particulier en France. En France, il aura toujours un bon accueil pour ses films. Même si aux États-Unis, vu leur dimension un petit peu psychologique ou critique, certains films sont moins bien reçus, en France donc, il y aura toujours une reconnaissance critique et une reconnaissance du public. Donc, le personnage caricature de l'intellectuel juif new-yorkais, il se revendique comme tel, qui est perturbé avec dans ses rapports avec les femmes, va en quelque sorte se superposer à Woody Allen. On pense qu'il est exactement ce personnage-là, ce qui est peut-être à moitié vrai, mais il ne correspond peut-être pas absolument à cela. Donc, il joue dans ses films en tant que réalisateur, il est à la fois acteur, réalisateur, scénariste. Il a joué parfois dans d'autres films, d'autres réalisateurs, et on ne peut pas ici donner la liste, j'en retiens un simplement parce qu'il est particulièrement intéressant, c'est Le Prête-Nom de Martin Ritt, un film dans lequel il fait celui qui endosse la responsabilité de l'écriture d'un scénario. Alors, ça correspond à quoi? Ça correspond à ce qu'on appelait la chasse aux sorcières aux États-Unis, avec une recherche obsessionnelle du communisme Et certains acteurs, certains réalisateurs sont écartés et ils trouvent le moyen de travailler sous un faux nom à travers le prête-nom. C'est-à-dire que le scénariste écrit son scénario et il le transfère ensuite au prête-nom qui va le présenter à un réalisateur en son nom. Et donc le communiste disparaît et c'est le prête-nom qui apparaît. Donc le personnage de Woody Allen est ce prête-nom. Et il va, en quelque sorte, devenir de plus en plus exigeant. Il va dire au scénariste, oui, mais ça, c'est pas bon, il faudrait le modifier, ce qui paraît étonnant. Et il va, parfois, ne pas transmettre le scénario au réalisateur tel que celui-ci, tel que le personnage aurait voulu, le scénariste aurait souhaité que le scénario soit transmis. Alors, la musique de Woody Allen dans ses films, c'est souvent du jazz, je vais y revenir. Mais on va commencer par un morceau qui apparaît dans Manhattan, 1979. Il faut souligner à la suite de ce morceau que Woody Allen est vraiment un passionné, il a l'obsession du jazz. Il a dans ses films toujours mis du jazz et régulièrement ses génériques commencent par du jazz. Et la tradition, on pourrait dire, de Woody Allen sur une trentaine d'années, c'est d'avoir les mêmes génériques au niveau du fond et des lettres. Ça veut dire que le générique est sur fond noir. Avec des lettres en blanc, c'est chaque fois la même chose. Souvent, c'est le même producteur ou le même dialoguiste qui peut apparaître. Donc, le film commence par ce jazz. Lui-même est clarinettiste. Il joue dans un club de jazz depuis des décennies. Il participe à ce club de jazz. Et il fera même, dans sa carrière, un film sur le jazz qui s'appelle Accords et désaccords en 1999 où Sean Penn fait un musicien de jazz. Ça se présente comme un faux documentaire. Donc c'est vraiment un film de fiction, mais c'est présenté comme un faux documentaire pour que Woody Allen puisse broder en quelque sorte à travers son amour du jazz sur ce film. Donc le personnage en tant que tel dans les films apparaît souvent passionné par telle ou telle œuvre cinématographique. Il cite Berman, il cite Fellini. Et d'ailleurs, cette manière de filmer européenne, il va essayer lui-même de l'acquérir, ce qui explique que parfois les films sont un échec aux États-Unis, mais sont une réussite en France ou en Europe. Alors le réalisateur Woody Allen sera récompensé, il aura des Oscars, il aura une reconnaissance mondiale dans un certain nombre de festivals, et donc cette légitimité d'auteur lui sera accordée de manière incontestable. Alors le réalisateur, l'acteur, ont parfois fait des ouvrages lui-même. Il a écrit des ouvrages dans les années 60 qui étaient des ouvrages comiques, un petit peu dans la suite des gags qu'il pouvait faire à ce moment-là. Et il va écrire par la suite d'autres ouvrages plus sérieux, notamment des mémoires de manière récente. Et il aura aussi pas mal d'entretiens avec certains auteurs. Alors j'ai relevé un ou deux passages dans un bouquin d'entretien qui est de Jean-Michel Frodon, peu importe, on pourrait le trouver ailleurs. C'est une caractéristique qu'il a de tourner un film, mais ensuite de réserver quelques mois après les mêmes comédiens pour retourner certaines scènes du film, ce qui est assez exceptionnel. Alors voilà la question. Vous avez mis au point un système de production qui vous permet de tourner à nouveau une partie, voire la totalité du film que vous êtes en train de faire si vous n'êtes pas satisfait des résultats du premier tournage. Dans quelle mesure cela vous a permis d'avancer sur certains films? Alors réponse, je m'en suis servi sur chaque film depuis le premier. J'ai toujours retourné les scènes, évidemment dans des proportions variables. Les gens sont surpris quand je dis que je tourne des films à plusieurs reprises, mais moi je suis étonné que personne d'autre ne procède ainsi. Comment peut-on penser que tout sera réuni du premier coup? Évidemment, cette méthode a souvent rendu plus difficile de faire appel à de grandes vedettes, elles sont peu disponibles et ne souhaitent pas forcément se rendre disponibles. Alors je demande à mes interprètes d'être prêts à une collaboration qui peut s'étaler sur une durée relativement longue du fait de cette nécessité de refilmer. Donc c'est une caractéristique quand même assez originale de dire voilà, je tourne un film, mais il n'est pas parfait. Donc je prévois à l'avance un planning pour récupérer les comédiens et faire de nouveaux tournages, de nouvelles scènes. Alors ça renvoie un petit peu à Chaplin qui était producteur et donc qui pouvait dépenser l'argent comme il voulait, qui pouvait faire des scènes. Et quand il a fait La ruée vers l'or, il a fait certaines scènes en extérieur et en intérieur. Et s'il n'avait pas été producteur, cela n'aurait pas été possible. Donc Woody Allen met cette clause dans ses contrats avec ses vedettes, obligation de venir pour retourner certaines scènes. Alors sur les scénarios et sur la productivité, Woody Allen, entre les années 70 et les années 2020, a tourné un film par an. Chaque fois, il tourne un film par an. Alors là aussi, il donne en quelque sorte sa recette. Il dit, il me faut 6 semaines à 2 mois pour écrire un scénario. C'est ce que je fais pendant l'été. Ensuite, mon organisation est toute prête, tout le monde est là. Le jour où le scénario sort de la machine à écrire, je le leur apporte. Le lendemain, nous commençons à distribuer les rôles, à chercher les décors extérieurs, à préparer le studio. Puis je commence à tourner. C'est un processus ininterrompu. Donc, vous voyez l'espèce de routine de Woody Allen dans les tournages qu'il peut faire de ses films. Il a ce caractère prolifique et aussi ce caractère qu'on ne retrouve pas toujours d'avoir fait des films de qualité tout au long de sa carrière, bon, des hauts et des bas, mais pas cette baisse de régime qui peut toucher certains réalisateurs qui, au bout d'une dizaine de films, commencent à se répéter et à ne plus pouvoir toucher à une originalité. Alors, un élément qui apparaît souvent chez Woody Allen, c'est la mer. Alors, la mer, c'est présenté chaque fois comme la mère juive possessive qui, dit-il parfois, ressemble à Groucho Marx. Donc on se dit, mais quand même, il va caricaturer. Et pourtant, le personnage, chaque fois, je dirais, psychiatriquement touché par la présence de la mère. Alors, le paradoxe, c'est qu'il y a un documentaire qui s'appelle « Wildman Blues », qui touche au jazz plutôt, de Barbara Koppel, dans lequel on voit la mère. Il y a un repas avec la femme de Woody Allen, qui est d'origine asiatique, avec les parents, et elle lui reproche carrément de n'avoir pas épousé, ce qui aurait dû être normal, une gentille petite juive. Alors effectivement, Woody Allen, face à sa mère, ben, ça correspond vraiment à ce qu'il a donné comme portrait de possessivité, de vouloir influencer sa vie, etc. Et ça paraît extrêmement étonnant parce qu'on se disait, mais non, il exagère. C'est pas possible que ce soit aussi grave que ça. Et si, en fait, il est marqué, même à... Il doit avoir 70 ans à ce moment-là, ou 65 ans, il est traité comme un petit garçon par sa mère. Alors c'est très très curieux, parce que finalement, tout ce qui renvoyait comme personnage perturbé, avec des éléments psychanalytiques qui renvoyaient justement à un complexe par rapport à la mère, mais ça existe, puisqu'on le voit à ce moment-là, et franchement, c'est très étonnant. Alors, pour reprendre quelques films, parce qu'il y en a un certain nombre et on ne peut pas tous les évoquer, donc Annie Hall, qui est le tournant de sa carrière en 1977, c'est le couple. Donc, le couple qui est formé, et qui se veut être ce film de description proche de la réalité. C'est comme cela qu'il est présenté. Donc, le couple et ses difficultés, et une dimension comique quand même qui est très 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 forte. Donc là, on est sur la transition, puisque la transition, c'est Annie Hall intérieur Manhattan. Alors, Annie Hall, le couple, intérieur, alors là, ça devient... extrêmement sérieux et presque violent, c'est-à-dire que dans le cas d'une famille, il y a les parents et trois filles, et le père a un désir de divorcer, et cela va perturber bien sûr à la fois sa mère et les filles, et là il n'y a vraiment aucun humour, c'est la tragédie qui joue à plein, et on pourrait dire qu'il veut faire un petit peu son Bergman avec ce film. Donc là, c'est le tournant, en quelque sorte, première fois où il y a un film sérieux. Alors après, on va retrouver des films intermédiaires. Donc j'ai cité Manhattan, qui est un film qui renoue avec une dimension humoristique. Il y a aussi Stardust Memories. Alors Stardust Memories, c'est 1980, avec un personnage qui est un réalisateur, hasard, qui va participer à une rétrospective de ses films dans un festival. Donc, un certain nombre d'aventures sur cette période du festival, et la question de la création est posée, ce qui touche Woody Allen de manière directe à travers de nombreux films. Donc, là aussi, intermédiaire entre possibilités de comique et possibilité de fiction. Donc les films s'enchaînent, et ce qui apparaît souvent chez Woody Allen, c'est une dimension fantastique. Fantastique au sens de irréel ou inhabituel. Donc fantastique, il y a dans l'œuvre de Woody Allen des éléments parfois ponctuels dans un film, parfois c'est le fondement du film. Alors là, on trouve un film qui correspond à cela, c'est La Rose pourpre du Caire, de 1985, dans laquelle le sujet, c'est tout simplement un acteur qui sort de l'écran. Donc le personnage ou l'acteur sort de l'écran et noue une relation avec une jeune femme qui l'admirait. Et donc là, le personnage vit en dehors, puis va revenir dans l'écran. On ne peut pas faire mieux comme dimension fantastique. Donc c'est un film qui sera vraiment original par rapport à la dimension fantastique. Alors, nous avons écouté tout à l'heure Manhattan. On va écouter maintenant la musique de Anna et ses sœurs.
Thank you.
Alors, toujours quelques films pris au hasard, parce qu'on pourrait piocher sur d'autres films, en fait. Alors, Anna et ses sœurs, 1986, toujours la question des rapports familiaux, les rapports difficiles entre plusieurs couples, cette thématique, encore une fois, qui perturbe de manière claire Woody Allen. Alors, film original, Ombre et brouillard, 1991. Alors là, c'est un petit peu Woody Allen chez Kafka. Il y a un étrangleur dans une ville. Le personnage central va participer à la recherche. Et on voit apparaître un magicien à la fin du film. Donc, le mélange de fantastique avec le magicien et une atmosphère ombre et brouillard, donc qui est proche de ce qu'on appelle le cinéma allemand à un moment donné, qui était relatif à l'expressionnisme, une manière de filmer très particulière. Alors, retour à un film comique, Meurtre mystérieux à Manhattan, 1993. En fait, on a un couple, et dans ce couple, la femme soupçonne ses voisins, qui sont un couple plus âgé, d'avoir pour l'homme commis un crime. Donc il y a en théorie une crise cardiaque qui serait la cause de la mort de la femme, et pour la voisine, non, ce serait un meurtre en réalité. Donc c'est la recherche là-dessus, et la dimension aussi humoristique est présente. Alors Harry dans tous ses états, 1997, toujours l'écrivain intellectuel, et là il essaie de décrire les rapports qui apparaissent dans sa vie, sauf que les personnages correspondent à des personnes réelles et celles-ci ne sont pas d'accord avec la manière dont elles sont présentées. Alors, un film sérieux qui était vraiment un succès absolu, c'était Match Point de 2005. Alors, le sujet est tout à fait tragique, c'est un jeune homme qui souhaiterait entrer dans la haute société, alors qu'il n'est pas du tout dans la haute société, et qui trouve le moyen d'être amoureux ou de séduire une jeune femme qui est de cette haute société, mais en même temps, il a une maîtresse qui, dont il ne peut pas, entre guillemets, se débarrasser. Et il va finir par aboutir à tuer pour réussir sa vie dans la haute société. Et la fin est totalement immorale, dans la mesure où, après avoir tué, il est innocenté parce qu'un personnage se retrouve avec des bijoux qui avaient été volés chez la personne tuée. Et donc, les policiers se disent « Ah ben si ce bijou est là, c'est que l'autre est innocent. » Donc, c'est une fable extrêmement noire et tragique où finalement, la mauvaise action, si on peut dire, est récompensée. Alors, un film plus ludique, Vicky Cristina Barcelona. Là, c'est beaucoup plus léger. En 2008, on a un artiste peintre espagnol qui essaie de séduire deux femmes et qui va jouer de son charme tour à tour avec l'une et l'autre. Sauf qu'à un moment donné, on a son ex-femme qui va débarquer chez lui et qui va compliquer la situation. Donc on a des personnages toujours pareils, amusants, séducteurs. Est-ce qu'on peut faire un couple ou pas? Alors je ne parle en général pas des acteurs, parce que les acteurs, si je les citais tous, ça nous ferait, je n'irais pas perdre du temps, mais il faudrait en parler chaque fois. Et la distribution est souvent excellente. C'est lui qui a fait apparaître Scarlett Johansson, notamment dans Match Point, alors qu'elle était toute jeune. Alors, un autre film où il est question de statut social, c'est Blue Jasmine de 2013, où une femme qui a un statut social élevé se trouve reléguée à un niveau inférieur parce que son mari était un escroc et qu'il se suicide. Donc, comment faire pour regrimper à la société? Essayer de séduire un homme pour arriver à ce nouveau statut, à récupérer ce nouveau statut, mais ça ne sera pas très facile et ça ne marchera pas de manière très très forte. Donc on a sur les derniers films, je vais y venir, Un jour de pluie à New York, dont on a sélectionné la musique, Un jour de pluie à New York. Alors, pour terminer sur deux films récents, on a Magic in the Moonlight de 2017, avec un magicien qui a une grande réputation et qui se trouve face à une jeune femme qui paraît avoir une dimension supérieure, une dimension réellement, réellement fantastique. Et quelqu'un lui demande de la dévoiler, de dévoiler ses trucs, ses tromperies. Et alors, il essaie. Et petit à petit, au fil du film, il croit, il finit par croire qu'elle a des talents sur elle. Et au fur et à mesure que le film passe, il en est de plus en plus convaincu. Alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas, mais il va la prendre uniquement à la fin. Donc ce contrôle obsessionnel par un magicien de ce qui n'est plus de la magie pour lui, c'est là aussi toujours cette dimension fantastique de Woody Allen. Alors, je retiens comme dernier film Un jour de pluie à New York, 2019, qui touche au cinéma de manière indirecte, avec quand même une grande place qui lui est laissée. On a un jeune couple qui vient de province. Elle a un journal étudiant pour lequel elle doit faire une interview d'un grand réalisateur. Et lui l'accompagne. Alors, elle va faire cette interview, puis elle sera prise dans un engrenage pour rester avec le réalisateur. Puis elle se trouve face à un acteur célèbre dont tout le monde est amoureux. Donc elle est entrée dans une relation où elle pourrait tromper son copain, sauf que effectivement la femme de l'acteur va arriver. Et son copain de l'autre côté va trouver une autre jeune femme avec laquelle il y aura un moment de séduction. Et finalement ça se termine par l'écroulement du couple, chacun partant de son côté. Et le jeune homme partant avec cette jeune femme qu'il a rencontrée. Donc, toujours les problèmes de couple. Alors, le dernier film qui n'est pas sorti encore en France, qui s'appelle Rifkin Festival. Là encore, même si je n'ai pas eu l'occasion de le voir, il y a toujours la question du couple, avec un couple en proie à une tentation de séduction. C'est là... permanence de la thématique de Woody Allen, il y a cette dimension comique, puis comico-tragique, et toujours le couple qui ne marche pas réellement, ou qui marche avec des difficultés. Donc, je n'en dirai pas plus, parce que effectivement la vie de Woody Allen peut refléter ce genre de problème. Et donc, je m'arrête là avec ce réalisateur qui a quand même eu une carrière particulièrement prolifique. C'était Cinéma Cinéma, une émission de Jacques Viguier. Avec à la technique Tiffaine Lemaine. Vous pouvez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site de la station Esprit Occitanie ainsi que sur l'application pour smartphone. Bonne semaine à toutes et à tous.